Le chef des œuvres 70. L'Église et la pression numéro 1. Le 24 juin 2006. Pasteur Brian Kozurek. Ce soir, nous allons examiner une fois de plus le paragraphe 119 du sermon de Frère Branham sur le chef-d'œuvre. Apparemment, dans ce paragraphe, Frère Branham a dit bien de choses à partir desquelles nous avons déjà prêché plusieurs sermons. Cela mérite d'être examiné de nouveau. Ainsi, ouvrons nos brochures et lisons au paragraphe 119. Le chef-d'œuvre 5 juillet 64. Paragraphe 119. Quand nous voyons Saint Paul, Pierre, Jacques, Jean, tous ceux qui ont écrit la parole. Ils ont écrit, et la parole qu'ils ont écrite a pris vie, a vécu, elle a vécu. Et nous voyons, quand elle est arrivée à maturité, Jean s'est mis à écrire les épîtres. Là, il a été expulsé de l'île de Patmos, après avoir été brûlé dans de l'huile pendant 24 heures. Mais la parole doit sortir. Elle doit être écrite. Ils n'ont pas réussi à faire sortir le Saint-Esprit de Jean en faisant bouillir celui-ci dans l'huile. Alors Jean en est ressorti. Son travail n'était pas terminé. Il est mort de mort naturelle. 120 Polycarpe, qui était disciple de Jean, a continué à porter la parole. Après Polycarpe, il y a eu Irénée. Irénée, le grand homme de Dieu qui croyait exactement le même évangile que nous croyons, la parole est juste. Et l'Église faisait pression pour s'en débarrasser. Maintenant, cette dernière déclaration qu'il fait ici est digne d'être examinée. En s'appuyant sur d'autres choses que Frère Branham a dites au sujet de la pression qui viendra sur l'épouse. Mais, remarquez qu'ici, il est en train de parler de la parole de Dieu, et comme nous avons vu il y a 2 semaines, la parole doit elle-même vivre, car la parole de Dieu est esprit et vie. C'est ce que Jésus a dit dans Saint Jean 6, 63. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et nous savons par le même apôtre que la parole est la vie et cette parole de vie s'est manifestée pour nous dans le corps du Fils de Dieu. 1 Jean 1, 1 ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, moins 2 car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Nous avons aussi vu dans la parabole de Jésus sur le semeur, alors que nous voyons dans Marc 4, un Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage d'eux et il leur enseigna beaucoup de choses en parabole. Et il leur dit dans son enseignement, la version anglaise dit, dans sa doctrine, 3 écoutez, or, le mot écouter veut dire écouter attentivement, prêter, attention à, donc, ce que Jésus est en train de dire ici, écoutez attentivement ce que je vous dis, ainsi, Jésus essayait d'obtenir leur attention afin de leur dire quelque chose qui est d'une grande importance pour eux. Ensuite, il dit, voici, maintenant, ici, le mot voici veut dire regardez attentivement dans le but de comprendre. Ensuite, après avoir obtenu toute leur attention et leur concentration, alors il commence à dire la parabole. Un semeur sortit pour semer. 4 Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. 5 Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle n'y trouva pas un sol profond. 6 Mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. C'est une autre partie tomba parmi les épines montèrent, et l'étoufferant, et elle n'émit donna point de fruit. 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60, et 100 pour un. 9. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Maintenant, nous savons quand Jésus parle d'avoir les oreilles pour entendre, il utilise une métaphore, parce que tout le monde sait que nous entendons avec nos oreilles. Mais, lorsqu'il dit que celui qui a les oreilles pour entendre, il ne laisse savoir qu'il y a de ceux-là qui n'ont pas d'oreilles pour entendre. Or, entendre signifie comprendre. Sestère ce qu'il dit dans Matthieu 13. Matthieu 13h13 Sestère pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant ils n'émis voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni n'émis comprennent. Ainsi, nous voyons qu'il y a des gens qui entendent, mais qui n'émis prêtent vraiment pas attention à ce qu'ils entendent, et parce qu'ils n'émis prêtent pas attention, ils ratent en fait ce qui Esther dit. Le monde Esther rempli de gens de ce genre. En septembre 2001, je me souviens avoir tenu une réunion de ministres à Manila, Philippines, et nous avions environ 65 ministres dans la salle, de vrais et de 6000 croyants. Parmi les 6000 croyants, il y avait 0,8 ministres qui n'étaient pas là pour apprendre, mais pour essayer de polluer la réunion avec leur fausse foi et une mauvaise attitude. J'enseignais sur la divinité et je venais de leur donner 0,4 citations où frère Branham disait que Jésus était une être double, parce que Dieu habitait en lui. Après leur avoir donné ces 4 citations de frère Branham, un ministre s'est levé et a dit, « Si vous nous montrez une seule citation où frère Branham dit que Jésus était un être double, nous allons croire ce que vous êtes en train de dire. » Je me suis arrêté et j'ai secoué ma tête en signe de regret en disant, « Je venais de vous donner 4 citations. Qu'avez-vous entendu pendant cette demi-heure ?» Ensuite, j'ai dit, dans l'exposé des 7 âges de l'Église, « Frère Branham a fait mention des gens comme vous qui n'écoutez pas, mais plutôt qui s'intéressent à leur propre point de vue qu'à écouter ce qui Esther dit. » 347-3 âges de l'Église de la Odyssée, l'exposé des 7 âges de l'Église, tu es œil aveugle et nu. Or, ceci est vraiment pitoyable. Comment quelqu'un peut-il être aveugle et nu sans le savoir? L'Écriture dit encore qu'ils sont aveugles et nus sans rendre compte. La réponse est qu'ils sont spirituellement aveugles et nus. Souvenez-vous, lorsqu'Élisée et Gazi furent encerclés par l'armée syrienne, vous rappelez-vous qu'Élisée les a frappés d'aveuglement par la puissance de Dieu? Leurs yeux étaient toujours largement ouverts et ils pouvaient voir là où ils partaient. L'aveuglement était particulier en ce qu'ils pouvaient voir certaines choses, mais d'autres telles qu'Élisée, son serviteur et le camp d'Israël, ils n'émis pouvaient pas voir. Ce que cette armée pouvait voir était n'avait aucune importance pour eux. Ce que Néhémie pouvait pas voir a emmené leur captivité. Maintenant, que signifie ceci pour nous? Ça signifie ce que ça signifiait dans le ministère terrestre de Jésus. Il a essayé de leur enseigner la vérité, mais Néhémie voulait pas entendre. Jean 9, 40 quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» 41 Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, « Nous voyons. » C'est pour cela que votre péché subsiste. L'attitude de cet âge est exactement ce qui était alors. Les gens ont tous cette attitude. Ils le savent tous. Ils n'aiment ils peuvent pas être enseignés. Si un point de la vérité de la parole est soulevé, et un homme essaie d'expliquer son point de vue à quelqu'un avec un point de vue différent, l'auditeur n'écoute pas tout ce qu'il peut apprendre. Mais il écoute seulement pour réfuter ce qui Esther dit. Maintenant, je veux vous poser juste une question, L'écriture peut-elle combattre l'écriture? La Bible se contredit-elle? Peut-on avoir deux doctrines de la vérité dans la parole qui se contredisent? Non. Ça n'est mis peut pas être ainsi. Maintenant, combien de gens ont-ils leurs yeux ouverts à cette vérité? Même pas 1%. Aussi bien que je le sache, ont appris que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, etc. Si toute écriture est inspirée, alors chaque verset doit concorder si une occasion est donnée. Mais, combien croient dans la prédestination, l'élection, la réprobation et la destruction? Ceux qui n'y croient pas à ça, vont-ils écouter? Non, ils n'y vont pas écouter. Or, les deux sont dans la parole. Et rien n'y va changer ça. Mais pour apprendre ça et réconcilier la vérité de ces doctrines avec les autres vérités qui semblent se contredire, ils n'auront pas le temps. Mais ils vont boucher leurs oreilles, grincer leurs dents, et ils vont se perdre. À la fin de cet âge, un prophète viendra, mais ils seront aveugles à tout ce qu'il va faire et va dire. Ils sont très sûrs qu'ils sont dans le vrai et dans leur aveuglement, ils vont tout perdre. Ensuite, j'ai arrêté la réunion et je leur ai dit que je secoue la poussière de mes pieds sur eux et sur leur ville, et je suis allé à ma chambre d'hôtel. Beaucoup de frères qui voulaient entendre la parole de vie m'ont suivi à ma chambre, et nous avons continué dans ma chambre avec plus d'une dizaine de ministres jusque tard dans la nuit. Mais qu'en est-il de ces autres? Ils seront jugés comme frère Branham l'a ainsi expliqué dans cette citation des sept âges de l'Église. 60-1 Vision de Patmos. 2 Jean 1:48 Nathan lui dit, « D'où me connais-tu ? » Jésus lui répondit et dit, « Avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. Ça y est, Esther. Lorsqu'il viendra, cette parole se lèvera contre toutes les nations et tous les hommes. » Et personne n'aimé se mesurera à la parole. La parole de Dieu montrera qui faisait la volonté de Dieu et qui n'aimé la faisait pas. Elle fera connaître les œuvres secrètes de chaque homme et la raison pour laquelle il les faisait. Elle mettra à pièce ce qui est interdit dans Romains 2, 3. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ensuite, ça va jusqu'à dire comment Dieu va juger les hommes. Ça se trouve du verset 5 jusqu'au verset 17. Le cœur impénitent, dur sera jugé. Les œuvres seront jugées. Les motifs seront jugés. Dieu n'aura aucun respect, mais tous seront jugés par cette parole. Personne n'aimé s'échappera à la parole. Ceux qui écoutent et qui n'entendront pas seront jugés par ce qu'ils ont écouté. Ceux qui restaient en disant qu'ils croyaient la parole, mais n'aimé la vivaient pas, seront jugés. Chaque secret dévoilé est proclamé du haut de toi. Oh, nous comprendrons vraiment l'histoire. Il n'y aura aucun mystère qui sera laissé, de tous les âges. Encore dans Matthieu 13:14 nous lisons, et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles, et vous n'y comprendrez point, vous regarderez de vos yeux, et vous n'y verrez point. 15 Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils n'y voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils n'aient mis comprennent de leur cœur, qu'ils n'aient mis se convertissent, et que je n'aie mis les guérisse. Maintenant, en revenant à Marc 4, nous continuons au verset 10 lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. 11 Il leur dit, c'est-à-dire à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, remarquez qu'il dit qu'à vous, il a été donné, alors c'est un don pour qu'ils comprennent. Quel est-ce don qui fait qu'il comprenne? Jean dit que nous savons et nous comprenons qu'il nous a été donné une onction de l'Esprit de Dieu, afin que nous puissions connaître et comprendre. Remarquez ce qu'il dit dans Jean 2, 20 pour vous. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. 21 Je vous ai écrit, non que vous n'ayez mis, connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge n'est mis vient de la vérité. Ainsi, Jean nous dit ici que l'onction du Saint-Esprit sur les croyants leur fera comprendre. Parce qu'aucun homme n'est mis peut connaître les choses de Dieu, si l'Esprit de Dieu n'estère pas sur lui. C'est-à-dire ce que Paul dit dans le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens 2, 7 Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Remarquez qu'il nous dit que la sagesse de Dieu a été cachée. Et de cacher une chose sous-entend que c'est-à-dire fait dans un but donné, que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Ainsi, ce qu'il est en train de dire ici, c'est-à-dire que bien que cela ait été caché par Dieu au cours des âges, Dieu avait résolu de nous le révéler et de nous amener à la même pensée, la même gloire que la sienne. 8 Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car, s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. 9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui n'aient mis son point monté au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Ni Dieu nous les a révélés par l'Esprit, la version anglaise dit, par son Esprit trad. Nous voyons que Dieu est le seul à nous le révéler, et il le fait par son propre Esprit. Car l'Esprit, pas un Esprit, mais l'Esprit, le propre Esprit de Dieu, sont tout, même les profondeurs de Dieu. 11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui espère en lui. De même, personne n'est aimé connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. 12 Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que, dans le but même que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 13 Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Ainsi, l'apôtre Paul est en train de nous dire ici que si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, vous n'allez pas connaître et vous n'allez pas comprendre pas les choses de Dieu, qui sont cachées aux hommes, mais qui nous sont révélées par l'Esprit de Dieu. Nous lisons là où Jean nous a dit la même chose dans 1 Jean chapitre 2. Quand il nous a dit que la raison pour laquelle nous connaissons toutes choses, est-ce que Dieu nous a oint de son propre esprit, afin que nous connaissions toutes choses. Mais en disant ceci, il dit que tout le monde n'a pas reçu cette onction. Aux autres, il n'est mis leur a pas été donné cette onction et ils n'est mis peuvent ni connaître ni comprendre ce que Dieu veut que nous comprenions. Ils sortent du milieu de nous, parce qu'ils n'aient mis savent pas ce qui se passe en réalité. 1 Jean 2h19 Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste, que tous n'aient mis sont pas des nôtres. Ensuite, il nous fait savoir au verset 20 et 21, la raison pour laquelle ils sont sortis, 20 pour vous. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Vous savez qui sont ceux qui continuent, ceux qui n'aiment et quittent pas ou ceux qui voudraient continuer. C'est évident que les autres sont ceux qui n'ont pas l'onction de celui qui est saint. 21 Je vous ai écrit, non que vous n'ayez mis connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge n'est mis vient de la vérité. Ainsi, ils sont ensemble parce qu'ils ont été oints du Saint-Esprit pour connaître et comprendre. Les autres n'ont pas compris. Ainsi, ils sont sortis parce que l'épée qui a été prononcée a été trop difficile à prendre pour eux. Alors, en revenant à notre parabole dans Marc 4, Jésus nous parle de ceux qui n'aiment ils sont pas avec nous, mais qui sont en dehors et il dit, mais pour ceux qui sont dehors, dehors signifie ceux qui sont à l'extérieur, tout se passe en parabole. Or, remarquez qu'il y a un but pour les paraboles. Elles ont pour but de garder la vérité cachée loin de ceux à qui il n'a pas été donné de la recevoir. 12 Afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant ils entendent et n'aient mis comprennent point, de peur qu'ils n'aient mis se convertissent. Alors, à moins que vous voyez, aperceviez, entendiez et compreniez, vous n'aimez ni serez jamais converti. Et si vous n'êtes pas converti, vos péchés demeurent donc. Et que les péchés n'aimés leur soient pardonnés. 13 Il leur dit encore, vous n'aimez comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Maintenant, il nous donne la signification de la parabole. 14 Le semeur sème la parole. Or, nous savons que celui qui sème la semence est le Fils de l'homme ou, en d'autres termes, Dieu sous la forme d'un prophète, enseignant ou propageant sa parole. 15 Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée. Maintenant, n'oubliez jamais que ce qui est semé c'est la parole de Dieu. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Maintenant, nous avons vu ces genres de personnes. Ils consacrent du temps à écouter, mais immédiatement, ils rejettent ce qu'ils ont écouté. Dieu permet que quelque chose arrive pour qu'ils se concentrent sur quelque chose d'autre que la parole. Et hop, ils s'en vont tout bonnement. Frère Brian fait claquer son doigt, aide. Ensuite, Jésus nous parle d'un autre groupe de croyants. Au verset 16 Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. 17 Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Or, ici, il s'agit de ceux qui n'aiment ni peuvent pas endurer le test auquel Dieu les soumet. Ils viennent pour la parole. Mais quand les choses se compliquent tant soit peu dans leur vie, ils veulent s'en débarrasser complètement. C'est parce qu'ils n'ont pas de racines dans la parole. Mais Paul nous dit que ceux qui n'aiment ni peuvent supporter les épreuves et les tests. Ce sont des enfants illégitimes. Et non les enfants de Dieu. Regardez, quand les choses sont faciles et semblent être trop bonnes, sachez simplement que pour certains, on n'y tardera pas à se demander si de cette manière, vous êtes un enfant de Dieu, parce que Dieu n'y veut rien d'autre que vous modeler et vous faire à l'image de son Fils premier-né, et faire que vous puissiez apprendre l'obéissance par les choses que vous souffrez. Bien des fois, Dieu permet que nous puissions souffrir à cause de quelque chose dans notre vie qui nécessite une réparation. Mais le problème est que nous essayons de le réparer nous-mêmes, et en le faisant, Dieu se retire simplement et nous observe. Alors que ce que nous devrions faire, c'est de lui demander de nous aider à résoudre nos problèmes. Et cela nous conduit au prochain groupe, qui est le croyant de la Odyssée. 18 D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole. Remarquez qu'il a dit parmi les épines. Ceux-ci n'aimés sont pas les épines. La parole fut semée dans les gens qui sont parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole. Or, ceux-ci ont écouté la parole. Ils l'ont comprise. Mais ils ont permis à leurs pensées d'être emportées loin de la parole. Et ils ont été étranglés par les soucis de la vie, et ils ont détourné leur attention du but pour lequel nous sommes ici, et ils focalisent leur Attention sur ce que les épines leur présentent. Maintenant, Jésus décrit comme épines 1 degré 19 mais en qui les soucis du siècle, 2 degrés la séduction des richesses, 3 degrés l'invasion des autres convoitises. Or, remarquez ce que ces trois choses font aux croyants. Jésus dit que ces choses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Remarquez qu'il dit la rendent infructueuse. Il est en train de parler de la parole de Dieu qui a été semée dans cette personne, laquelle a permis que ces choses détournent son attention de la parole de Dieu, pour fixer de nouveau la pensée sur les trois autres choses. La parole de Dieu était supposée être reçue dans un cœur nettoyé, un cœur qui est prêt à donner du fruit et à amener à la manifestation la nature divine, qui est née dans ce cœur par le baptême du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre 1, 3 comme sa divine, de Dieu, puissance, s'estère sa parole. Laquelle Paul dit dans Romains 1, 16 que la parole de Dieu estère la puissance de Dieu. Et nous savons que Dieu a fait le monde par sa parole, qui estère sa puissance. De toute façon, Pierre dit que, comme Dieu, sa divine puissance, sa propre parole, nous est donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Ainsi, vous voyez que la parole de Dieu libère en nous la nature divine de Dieu, si nous acceptons de nous abandonner et de laisser Dieu agir. Mais nous laissons ces choses nous arriver sur notre chemin et en nous concentrant sur autre chose que la parole de Dieu dans cette vie, nous laissons la parole que nous avons reçue être étouffée. Par conséquent, la vie de la parole sera asphyxiée. Il y a plusieurs années, prêchant dans une autre église, j'avais essayé de leur faire comprendre que bien qu'il y aura une pression que frère Branham avait rattachée au conseil des églises et qui viendra sur l'épouse. Et là encore, j'avais essayé d'avertir les gens qu'il y a une autre chose tout aussi mauvaise et qui est en fait pire pour l'épouse. Et les soucis de cette vie qui étouffe la parole et la parole n'estèrent pas vivifiés en eux à cause de ceux qu'ils ont tourné leur attention vers ces choses. J'ai dit que la parole qui estère étouffée signifie un autre genre de pression et cette pression estère de loin pire que celle qui vient, parce que la parole n'arrive pas à produire du fruit sous cette pression. Maintenant, le mot étouffé signifie devenir bloqué ou obstrué. Quelque chose qui gêne. Gêner la respiration par la pression ou l'obstruction du larynx. Et s'estère aussi vérifier ou ralentir le mouvement, la croissance ou l'action de, comme un jardin qui était étouffé par de mauvaises herbes. Ainsi, vous voyez que la parole devient étouffée au point de n'aimer pas produire des fruits. S'estère de loin une pression pire spirituellement que la fermeture des églises ou la persécution de l'église. Maintenant, cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas une pression dont frère Branham a parlé. Mais avoir la vie de la parole étouffée estère beaucoup dangereux au point qu'elle n'ait produit rien. Et s'estère pire que la persécution de votre foi. En fait, je crois que l'épouse aux États-Unis d'Amérique et au Canada a besoin de la pression dont frère Branham a parlé, juste pour les réveiller, si ce n'est pas trop tard. Ils ont besoin de quelque chose pour les secouer. Vous voyez que quand le diable veut combattre, on est mis nous a pas ordonné d'entrer sur le ring pour lui donner des coups de poing. Mais la Bible dit, résistez au diable, et il fuira loin. Alors, comment lui résister? Vous devez simplement vous abandonner et laisser Dieu agir. S'estère tout. Dieu combattra pour vous, si vous vous mettez à l'écart et que vous le lui laissez agir. Mais si vous n'êtes mis, pensez pas que Dieu le fera pour vous. Alors, vous serez vous-même étranglé dans le combat au point d'oublier que Dieu est souverain et rien n'échappe à son œil et à son oreille. Ainsi, nous voyons que la parole était supposée produire des fruits qui montrent qu'elle est en vie. Si les cellules ne se multiplient pas, alors elles sont mortes. Et si une plante n'était pas capable de produire des fruits, elle pouvait bien être déracinée et jetée au feu. C'est ce que Jésus a dit. Il a maudit le figuier qui n'avait pas produit les fruits, et il sécha et mourut. Ainsi, nous comprenons maintenant ce que Dieu a nous ordonné dans Marc 4:20 : d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent, et portent du fruit, 30, 60, et 100 pour un. C'est l'intention de Dieu pour son peuple, ses enfants. Il souhaite que nous portions du fruit. Jean 15, 4 demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment Néhémie peut de lui-même porter du fruit, si Néhémie demeure attaché au cep, ainsi vous Néhémie le pouvez non plus, si vous Néhémie demeurez en moi. 5 Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous Néhémie pouvez rien faire. Si quelqu'un Néhémie demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. 7 Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. 8 Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Courbons nos têtes dans la prière. Grâce Fellowship Tabernacle, mai 2007. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet à briancocourec@yahoo.com.